Chapitre 13. Sans avoir approché la duchesse jusqu'à ce jour, sans avoir vécu de sa vie et dans son monde, Roger la connaissait cependant assez pour ne pas se sentir attiré vers elle. Ce n'est pas quand on est en tête des 10 ou 12 femmes à la mode qu'on passe inaperçu, modeste, simple, timide, obscurément dévouée aux soins de sa maison, ne cherchant pas d'autre joie que celle que l'on trouve dans l'amour de ses enfants et le sourire heureux, plein de reconnaissance et de tendresse, de son mari bien-aimé. Modeste, la duchesse d'Arverne ne l'était point. Toujours en représentation, au contraire, bruyante, tapageuse, assidue à toutes les fêtes, fidèle de toutes les premières, celle du théâtre comme celle de l'église, se montrant partout où l'on s'amuse, où l'on se fait voir, et cela si régulièrement que c'était à croire qu'elle avait le don d'ubiquité, s'affichant au premier rang, faisant parler d'elle dans tous les journaux du High Life, qui semblait n'avoir qu'à chanter sa gloire à grand orchestre avec renfort de trompettes et de tambours. Simple, pas davantage. Ses toilettes étaient audacieuses, sans souci du goût et de l'harmonie, ne visant qu'à l'effet, ne cherchant que l'épatement de la galerie, et pour cela ne reculant devant rien, ni les contresens des formes, ni les hérésies des couleurs, mais s'imposant toujours par l'étrangeté quand l'originalité manquait, frappant fort si elle ne frappait pas juste. Timide, pas davantage non plus. Elle était partout et toujours en scène, avec des attitudes étudiées, comme on trouve à force de travail les vieux comédiens. Si, en entrant quelque part, on ne l'apercevait pas tout d'abord, ce qui était bien rare, car il n'était pas dans ses habitudes de s'effacer, on la découvrait bien vite aux éclats de sa voix, à ses exclamations, à ses rires, au cercle dont elle avait l'habileté de s'entourer. Bien qu'elle eût 4 enfants, elle ne les connaissait guère, ni les uns ni les autres, et l'on rapportait d'elle un mot qui avait couru tout Paris.
« La vie est si monotone qu'il y a des jours où j'ai envie d'embrasser mes enfants. Savez-vous que c'est quelquefois drôle, les enfants ?»
Des sourires et de la tendresse de son mari, elle n'avait jamais pris souci, bien que celui-ci l'eût aimé passionnément et l'aimât toujours. Où qu'elle allât, elle traînait avec elle 4 ou 5 adorateurs, souvent renouvelés, qui devaient lui témoigner ostensiblement leur admiration, leur soumission, et auxquels elle accordait non moins ostensiblement des marques de sa bienveillance en les employant à son service. À l'un, elle confiait son bouc de Paris, à l'autre, elle faisait tenir son ombrelle, le troisième était chargé d'un sac de bonbons, et il était bien rare que le quatrième ne portât rien du tout, comme l'heureux officier de Malbrou. Il fallait que tous les hommes qui l'entouraient subissent son influence. C'était chez elle affaire d'amour-propre et de dignité. S'y soustraire était l'offenser. L'indifférence devenait pour elle une injure et une marque de mépris qu'elle ne pardonnait pas. Tout cela, Roger le savait pour l'avoir vu lui-même quand il s'était rencontré avec la duchesse, ce qui lui était arrivé à chaque instant, ou par les propos du monde, mais il en avait appris plus encore par une femme dont il avait été l'amant peu de temps avant sa majorité et qui était la cousine en même temps que l'amie intime de la duchesse d'Arverne. Marié à un riche financier de nationalité anglaise, M. James Morson, cette femme, célèbre par ses galanteries et qui avait étonné Paris par ses aventures, avait la prétention d'imposer à chacun de ses nouveaux amants la foi absolue en sa virginité. C'était même parce qu'il n'avait pas voulu croire à cette virginité toujours renaissante et qu'il en avait ri, que Madame Morson, après quelques semaines de liaison, avait rompu avec lui, outragée et furieuse. Mais avant cette rupture, elle lui avait bien souvent parlé de sa cousine, la duchesse d'Arverne, la prenant pour point de comparaison et s'en servant comme d'un repoussoir. Ce n'était pas la duchesse, la pauvre Valère, comme elle l'appelait d'un air de pitié, qui savait se réserver. Au contraire, tout au caprice qui s'emparait d'elle, prête à toutes les folies, à toutes les extravagances, jusqu'à tout sacrifier, elle, les siens, son honneur, le monde entier. Que d'expérience n'avait-elle point ainsi faite, la pauvre Valère, cherchant toujours et ne trouvant jamais l'homme rare qui devait enfin éveiller en elle les sensations inconnues après lesquels elle courait désespérément sans les atteindre, accusant ceux qui la trompaient et n'ayant pas la pensée de se demander si elle n'était pas la seule coupable. Tout cela rendait la duchesse peu sympathique à Roger, et cependant il reconnaissait que, sous bien des rapports, c'était une femme désirable. Combien d'hommes avaient fait des folies pour elle? Combien d'autres seraient heureux de les faire toutes? Belle, on ne pouvait pas dire qu'elle le fût, ni même jolie, mais étrange et s'imposant à l'attention, surtout aux souvenirs qu'elle tourmentait, facile à attaquer pour les femmes, plus facile à défendre pour les hommes. Après 10 années de vie parisienne à outrance et sans qu'on l'eût jamais vue prendre un jour de repos, elle était fatiguée. Mais par une bizarrerie de sa nature, la fatigue lui allait. Ses yeux eussent perdu de leur puissance si leurs paupières inférieures n'avaient point été bordées d'une ligne bleuâtre qui donnait plus d'éclat à la blancheur nacrée de la sclérotique. Son nez n'aurait rien dit si ses narines n'avaient point été dilatées et le plus souvent palpitantes. La pâleur du visage était chez elle un attrait, de même les molles langueurs de ses attitudes de repos en étaient un aussi. Grande et souple, il y avait dans sa démarche quelque chose de la légèreté capricieuse de la chèvre, et l'on ne pouvait regarder longtemps sa tête, au front large et au menton aminci, sans penser à l'une de ces faunes qu'on voit sur les vases ou sur les pierres antiques, renversées au bras d'un satyre amoureux. Un peu petite pour le corps, cette tête était chargée de cheveux châtains superbes, assez touffus et assez longs, pour qu'elle ne voulût pas qu'on les coiffât solidement, de manière à profiter de toutes les occasions où elle pouvait les laisser se dérouler, par accident, sur ses épaules. Hardis et profonds étaient les yeux. Rouges et charnues étaient les lèvres qui découvraient continuellement des dents blanches admirables, quoique un peu trop serrées et trop pointues. Le cou était long et onduleux. Les épaules étaient tombantes, recouvertes dans le dos d'un épais duvet. Mais ce qu'il y avait de vraiment caractéristique en elle et qui frappait ceux qui savent voir, c'était une sorte de désaccord dans l'ensemble de ses proportions. Généralement, les gens sont tout d'une pièce, ou tout gras de la tête aux pieds, ou tout sec. Chez elle, il n'en était point ainsi. Tandis que la tête, les mains, les bras et le haut des épaules étaient amaigris, les seins et les hanches offraient des formes développées et arrondies, comme si la vie était là plus complète et plus intense. Au moment où Roger s'occupait ainsi d'elle, elle approchait de la trentaine et il y avait plus de 10 ans qu'elle était mariée. C'est même à l'occasion de ce mariage que son mari avait été fait duc d'Arverne et richement doté d'une somme d'1 million et d'un château par l'empereur, payant à l'un de ses compagnons de misère les plus dévoués et les plus actifs, qu'il avait toujours soutenu de son énergie et de sa foi dans le succès final, les services qu'il en avait reçus en exil, dans ses conspirations et lors du coup d'État. Il n'avait pas fallu moins que ce titre, qui avait ébloui la fille, et cette donation qui avait touché le père, pour décider ce mariage, car celui-ci, qui n'avait pas une origine plus haute que son futur gendre, s'était longtemps refusé à donner sa fille au fils d'un petit notaire de province, même quand ce fils de notaire était un des personnages les plus importants de l'État. Mais, à la fin, le titre, le million, le château et les divers traitements du futur mari s'élevant ensemble à près de 300 000 francs avaient brisé ses résistances et Valère était devenue duchesse d'Arverne. Seulement, son père, qui savait compter et qui n'avait d'ailleurs qu'une confiance médiocre dans la solidité de l'Empire, avait su tirer habilement parti de ses longues résistances et surtout de la passion exaspérée du duc, plus âgé de 20 ans que celle qu'il épousait, pour ne point donner de dot à sa fille, un trousseau luxueux, une rente modeste, et savait été tout. Telle était la femme qui venait se jeter dans la vie de Roger.